Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Porridge et pudding, Brexit, sommet européen ce soir à Bruxelles. Deux questions, faut-il accepter ou non un nouveau report du Brexit et à quelle échéance? Et petit 2, comment s'assurer que les députés britanniques qui vont rester plus longtemps que prévu seront loyaux? Parole de député europhobe dans un instant, puis Angélique Boin à Bruxelles. Qu'on le veuille ou non, Benjamin Netanyahou entre un peu plus dans l'histoire. Il va probablement entamer un cinquième mandat à la tête d'Israël et battre David Ben-Gourion. Victoire quasi certaine aux législatives, victoire personnelle, ses électeurs sont aux anges.
On a une armée qui nous défend, on a la tête haute. Et on est très fiers d'avoir Bibi qui ose dire non quand il n'est pas d'accord.
Reportage Valérie Crova et l'analyse d'Étienne Monin à suivre. L'actualité internationale, c'est encore la peine de mort en perte de vitesse dans le monde. Rapport d'Amnesty International, nous en parlons avec notre invité. Et puis une épidémie de rougeole qui inquiète à New York. Que disent les prénoms de l'intégration des personnes d'origine étrangère? Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Enquête intéressante aujourd'hui à ce sujet.
Trois générations étudiées, 22 000 personnes interrogées, une tendance, immigrée ou pas. Les prénoms sont de plus en plus nombreux et de plus en plus internationaux.
A tout à l'heure pour les détails dans ce journal encore. Pas de remise en cause de l'interdiction de GPA en France, mais à nouveau l'appel à reconnaître les enfants nés à l'étranger. Et la filiation entre l'enfant et la mère d'intention peut passer par l'adoption. C'est l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme sur les mères porteuses. Le référendum d'initiative populaire contre la privatisation des aéroports de Paris a-t-il vraiment les chances de voir le jour? Pas gagné. Une histoire incroyable à Toulouse, un lance-roquette dans une maison cachée par un ado de 15 ans. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Que nous dit Météo France aujourd'hui?
Eh bien, on a une perturbation pluvieuse au nord de la Loire et sur le quart nord-est, mais le soleil revient sur le Nord-Pas-de-Calais. Soleil aussi entre le Poitou, la Vendée et les plages des Landes, ainsi que sur le Roussillon. Ailleurs, l'après-midi sera nuageux, voire très nuageux, avec des averses et même des orages sur le relief. Les averses orageuses seront plus marquées en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec également des risques de grêle, notamment sur le Var. Et les températures seront comprises entre 10 degrés à Cherbourg et 20 degrés à Nîmes.
Dans le nord, déjà une alerte sécheresse et des mesures d'économie d'eau jusqu'au mois de juin. Le conseil cinéma du mercredi, Blanche comme neige avec Lou Delage et Isabelle Huppert. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Brexit épisode 542, voici le scénario probable après le nouveau sommet européen ce soir à Bruxelles. Un nouveau report du Brexit, les Anglais voteraient donc aux élections européennes de la fin mai. Et donc dans les semaines, voire les mois à venir, il y aura des députés britanniques à Strasbourg, alors même qu'ils s'apprêtent à quitter l'Europe. Est-ce qu'ils doivent être associés à toutes les décisions et quelle sera leur attitude? Certains ne s'en cachent pas, la loi qu'ils suivront sera celle de l'emmerdement maximum. Écoutez, le député conservateur qui déteste l'Europe, Marc François, voix off Nasser Madji.
Si vous essayez de nous faire rester au sein de l'Europe contre la volonté démocratique du peuple britannique, nous deviendrons une sorte de cheval de Troie à l'intérieur de l'Union européenne et nous ferons complètement dérailler toutes vos tentatives de continuer à construire un projet plus fédéraliste. Il se pourrait bien qu'on vote systématiquement pour rejeter votre budget et qu'on mette un veto au projet de coopération militaire et plus généralement, il se pourrait qu'on rende impossible ce projet d'Europe fédérale auquel vous continuez désespérément de croire. Si vous essayez de nous retenir contre notre volonté, vous aurez face à vous la perfide Albion dans toute sa splendeur. Ce serait bien mieux pour tout le monde que nous poursuivions nos destins séparément dans un esprit de respect mutuel. Comme Boris Johnson l'a récemment dit, en citant les propos de Moïse face au Pharaon, « Laissez partir, mon peuple !»
Eh bien, nous voilà bien partis. Merci à Antoine Gignot, correspondant de France Inter à Londres, pour ce témoignage. Et bonjour Angélique Boin. Ce soir, lors d'un dîner de travail, les chefs d'État et de gouvernement des 27 vont discuter de deux sujets. Petit 1, dire oui ou non à un report du Brexit, ce sera sans doute oui. Mais aussi, quelles garanties demander aux Britanniques pour qu'ils ne bloquent pas le fonctionnement de l'Europe, Angélique?
Oui, et à ce stade, tout le monde n'est pas encore sur la même ligne. Ici, le projet de conclusion discuté hier au niveau des ambassadeurs indique qu'il faudra que les Britanniques se comportent loyalement vis-à-vis des 27 pendant la période de cet éventuel report en leur qualité de pays sortant. Pour un certain nombre d'États dont la France, ces garanties ne sont ni assez strictes ni assez précises. On pourrait donc demander à Londres, ce sont des exemples, de renoncer à son droit de veto lors des futurs conseils européens, de s'engager à de ne pas interférer dans les grandes orientations du budget, voire de renoncer à un commissaire dans la future future commission. Imposer quoi que ce soit aux parlementaires sera, Bruno, plus compliqué car ce sont des élus. Voilà les pistes que poseront sur la table du Conseil des pays qui craignent que les Britanniques donc ne perturbent le bon fonctionnement de l'Union en restant encore quelques mois à bord. Mais tous les États membres ne partagent pas la même fermeté et il n'est pas sûr non plus que Theresa May accepte sans broncher de lier ainsi les mains de son pays. Seule certitude donc, le dîner de travail devrait s'éterniser et comme à chaque conseil, eh bien, bien malin est celui qui sait par avance ce qui sera décidé à 27 car je le rappelle ici, la règle c'est l'unanimité.
Angélique Boin en direct de Bruxelles, la campagne européenne a donc un goût de Brexit et la tête de liste des macronistes en France tente de corriger l'image assez peu sociale de l'Europe et de la majorité. Nathalie Loiseau plaide ce matin dans la presse pour un SMIC européen, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron également. Je veux que l'Europe rime avec sociale. L'Europe encore, l'Europe juridique. Ce n'est qu'un avis de la Cour européenne des droits de l'homme à propos de la GPA, les mères porteuses. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
Avis qui avait été demandé par la Cour de cassation à Paris. Alors, il ne remet pas en cause l'interdiction de la GPA en France. Il appelle une nouvelle fois à reconnaître les enfants nés à l'étranger de GPA. Et puis il se prononce sur la filiation entre l'enfant et la mère d'intention.
Oui, car la question dans le cadre d'une gestation pour autrui tourne autour de la reconnaissance légale de la mère. La Cour de cassation avait sollicité un avis de la Cour européenne des droits de l'homme, car la France, dans l'affaire Menson, c'est un couple emblématique, vous le savez, qui se bat depuis des années pour la reconnaissance des deux parents. Eh bien, la France avait été condamnée pour avoir refusé cette filiation. Aujourd'hui, la CEDH dit que cette filiation peut être reconnue par la France. Il y a, précise-t-elle, possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre l'enfant et la mère d'intention, et ce en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour Dominique Menson, le père, c'est une avancée importante pour sa famille.
C'est une victoire, ça veut dire que toutes les mères d'intention ont droit à être reconnues légalement comme les mères. Maintenant, l'État va être obligé d'appliquer cet avis, qui est extrêmement clair, de reconnaître toutes les mères d'intention qui ne faisaient pas avant. C'est le point le plus fort de la décision pour mettre fin à l'insécurité des enfants. Là, à partir du moment quand même où la Cour de cassation a sollicité cet avis, on voit mal comment elle ne pourrait pas le suivre.
Pour autant, la Cour européenne des droits de l'homme n'impose pas la transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de naissance établi à l'étranger, comme le souhaiteraient les Menson, mais elle ouvre la porte à une autre forme de reconnaissance, telle que l'adoption de l'enfant par la mère dite d'intention.
Une information donnée par l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Facebook, condamné par le tribunal de grande instance à revoir ses conditions d'utilisation, à les rendre plus transparentes. Israël, après les élections législatives, le pays sera gouverné très à droite dans les mois et les années à venir. Et le parti de gauche qui était au baptême d'Israël, parti travailliste, est au plus bas, 6 députés seulement. Voilà deux enseignements parmi d'autres des législatives d'hier. 97% des bulletins dépouillés. Égalité de siège au Parlement israélien entre le parti de Benjamin Netanyahou, le Likoud, et le centre droit de son adversaire Benny Gantz. Mais Netanyahou a davantage de marge de manœuvre pour bâtir une coalition avec l'extrême droite notamment. Il va donc très probablement entamer un cinquième mandat et battre le record de longévité de David Ben-Gourion comme Premier ministre d'Israël. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour Bruno.
Correspondant de France Inter à Jérusalem. Dans un instant, Étienne, vous allez nous livrer votre analyse. D'abord, parole d'électeur de Netanyahou. C'est à Tel Aviv, au micro des envoyés spéciales de France Inter, Hélène Langlois et Valérie Crova.
Devant des images de Benjamin Netanyahou en campagne, les militants reprennent en chœur une chanson à la gloire du Likoud. Léa Tov est une supportrice de la première heure de Bibi. Elle savoure sa victoire.
C'est incroyable. Bibi Netanyahou a fait énormément pour Israël. On le voit. Au niveau international, on avait hier des ennemis qui deviennent aujourd'hui des amis. Je pense à l'Arabie Saoudite. On a un gouvernement, on a une armée qui nous défend, on a la tête haute. Et on est très fiers d'avoir Bibi qui ose dire non quand il n'est pas d'accord.
Même réélu, Bibi pourra-t-il échapper aux accusations de corruption, de fraude et d'abus de confiance qui pèsent sur lui? Le procureur général qui instruit les trois affaires ne l'a pas encore entendu, il devrait le faire dans les prochaines semaines. Nili Pitchon, vice-présidente de la jeunesse du Likoud, est convaincue que d'ici là, les accusations vont s'effondrer.
Moi, je suis certaine que toutes ces inculpations, elles vont vraiment descendre. Les médias n'en parleront plus. C'était vraiment la politique de beaucoup des partis adverses de Benjamin Netanyahou qui se servait de cela, je suis certaine qu'on n'entendra plus parler.
Durant toute la campagne, Benjamin Netanyahou a dénoncé une chasse aux sorcières. S'il était inculpé, il livrerait une autre bataille, juridique celle-là. Tel Aviv, Hélène Langlois, Valérie Crova, France Inter.
Et comme promis, Étienne Monin, correspondant de France Inter à Jérusalem, on vous retrouve hier à cette même heure, Étienne. Nous disions que Netanyahou avait tout donné dans la campagne sans être sûr de gagner. Eh bien, il a gagné et c'est une victoire personnelle incontestable.
Oui, il gagne ce pari du référendum. Il avait élaboré cette stratégie. Il a été en première ligne du début jusqu'à la fin. Il a contrôlé sa communication, multiplié les vidéos, abattu toutes les cartes possibles du soutien de Donald Trump jusqu'aux attaques personnelles, en passant par la fausse panique dans la dernière ligne droite pour mobiliser l'électorat. Dans cette campagne, Benjamin Netanyahou a droitisé ses positions. Il a polarisé contre la gauche et contre les Arabes d'Israël. Il a courtisé l'électorat messianique. Il a aussi exploité un important clivage dans la société, celui de la droite défavorisée qui garde un complexe vis-à-vis des anciennes élites de gauche soupçonnées à leurs yeux d'instrumentaliser les institutions pour attaquer la droite. Le Premier ministre a fortement alors condamné la presse, la justice, il a gommé les effets des poursuites judiciaires et soudé le camp de la droite autour de sa personne. Cet été, il devrait donc battre, vous le disiez, le record de longévité à la tête du gouvernement. Le stratège transgressif et populiste devrait remplacer Ben Gourion, le père de l'État, l'humaniste et le visionnaire.
Merci Étienne Monin. Et avec ces résultats, l'hypothèse d'une paix israélo-palestinienne s'éloigne un peu plus. Encore un mot de l'actualité internationale en Algérie. Les regrets de Paris après l'expulsion du patron de l'agence France Presse. Difficile d'être journaliste en ce moment à Alger. L'actualité internationale, on y revient dans une dizaine de minutes dans ce journal.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
D'abord, comme promis avec Delphine Evenoux, en France, cette question, peut-on mesurer le degré d'intégration à travers les prénoms? Une enquête de l'INED, Institut National de la Démographie, s'attaque à cette délicate question. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude, Delphine?
Principal enseignement sur cette enquête qui porte sur 3 générations d'immigrés d'Europe du Sud et du Maghreb, eh bien, il y a convergence entre les prénoms de la population majoritaire et ceux des descendants d'immigrés. Elle ne se fait pas autour de prénoms typiquement français comme Bruno ou Delphine, ni autour de prénoms issus de la culture des immigrés, mais autour de prénoms internationaux autour duquel tout le monde peut s'identifier. Baptiste Coulmont de l'Université Paris 8 a coécrit l'étude.
Les choix sont maintenant très divers et il y a des dizaines de milliers de prénoms en circulation. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que tout le monde embrasse cette diversité. Le registre des prénoms français, en fait, c'est maintenant un registre parmi d'autres et ça n'est plus le registre majoritaire.
Et l'on apprend qu'excepté dans les familles où la religion est importante, il est difficile de transmettre une culture par le prénom au-delà d'une ou deux générations. Donner un prénom plus universel, est-ce une stratégie d'intégration? Pas du tout, répond notre sociologue Baptiste Coulmont.
On choisit pas un prénom pour s'intégrer ou pas pour ne pas s'intégrer, on choisit un prénom parce qu'on le trouve joli, et c'est le cas pour la grande majorité des gens. Les parents ne vont pas choisir un prénom moche, un prénom qu'ils ne trouvent pas joli, juste parce qu'ils pensent qu'ils pourront s'intégrer.
Tout simplement. Enfin, si on a vu une forte innovation dans les prénoms ces 20 dernières années, d'autres ont rapidement été connotés, comme Yanis ou Ryan, perçus désormais comme d'origine maghrébine par la population majoritaire.
Une confirmation, Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du budget condamné pour fraude fiscale, n'ira pas en prison. La cour d'appel de Bastia valide l'aménagement de sa peine sous forme d'un bracelet électronique. Un lance-roquette chez un adolescent, découverte faite hier par des policiers de Toulouse. Au départ, Stéphane Garcia, il y a une affaire de violence avec arme dans lequel le jeune est impliqué.
Alors qu'il venait de fouiller le domicile familial de cet adolescent dans l'ouest toulousain, les forces de l'ordre remarquent que la porte du garage est difficile à ouvrir. En forçant, ils parviennent malgré tout à pouvoir y entrer. Et là, ils découvrent ce lance-roquette de type M80 adossé contre un mur grossièrement dissimulé par des sacs qui bloquaient en fait la porte du garage. Une arme en fibre de verre encore produite en Serbie, en Macédoine et beaucoup utilisée lors du conflit en ex-Yougoslavie. Un engin configuré pour un usage unique. La roquette n'est plus à l'intérieur, pas de danger. Donc, mais par précaution, les policiers appellent malgré tout leurs collègues des mineurs pour en être sûrs. Le parquet de Toulouse a ouvert un nouveau dossier pour infraction à la législation sur les armes. L'enquête a été confiée au SRPJ. Le suspect de 15 ans, bien connu de la police, se trouve toujours en garde à vue dans le commissariat central. Il a été initialement arrêté pour avoir tiré sur un passant avec une arme non létale et pour usage de produits stupéfiants.
Un nouveau chiffre qui indique que la baisse de consommation du tabac en France se confirme. Les ventes de cigarettes ont baissé de plus de 9% selon les douanes, petite exception en Corse où les ventes de cigarettes progressent de 6%. C'était dans le carnet de liaison, le carnet de correspondance de ces filles. Est-ce normal ? Cela ressemblait de très près à un tract syndical. Une députée En Marche est choquée par la découverte faite dans donc les cartables de ces filles. La semaine dernière, deux textes contre la loi Blanquer sur l'école. Suzanne Chodjaï, la députée, est élue de l'Ain.
Une mauvaise surprise pour Olga Givernet.
Ce tract m'est arrivé par deux fois, une fois glissé dans le cahier de liaison, une deuxième fois collé dedans. J'ai pu comprendre que les enseignantes avaient en plus évoqué le sujet, puisque une de mes filles était capable de m'en parler. Je trouvais ça assez choquant.
Un texte noir sur blanc, sans signature syndicale, qui explique les raisons de la grève de jeudi dernier, les mesures de la loi Blanquer qui dérangent les enseignants, les conséquences sur l'école, et dans le dernier paragraphe, un encadré. Nous comptons sur votre soutien. N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour échanger. Alors Olga Givernet regrette la méthode passée par les enfants pour communiquer.
Il faut que ça puisse être identifié comme une revendication syndicale et pas du tout dans le cadre de leur fonction lorsqu'ils sont en cours et qu'ils font coller ces tracts par les enfants dans leur cahier. Un esprit de neutralité, il faut que ça puisse être en dehors de l'ensemble de l'école.
La députée de l'Ain n'est pas la première à alerter sur le sujet. D'autres l'ont fait dès la semaine dernière, comme Marie-Christine Verdier-Jouclat, députée La République En Marche dans le Tarn.
La privatisation d'Aéroports de Paris serait une imbécilité économique et une erreur stratégique majeure. Propos du chef des députés socialistes Boris Vallaud. La majorité fait face à ce sujet à une fronde assez inédite de l'opposition. Droite et gauche modérée, extrême droite, gauche radicale, tous ensemble pour hurler à la vente des bijoux de famille et demander, c'est à la mode, un référendum sur cette privatisation d'Aéroports de Paris. Alors on verra si le référendum d'initiative citoyenne demandé par les Gilets jaunes existe un jour. Pour l'instant, ce qu'il existe, c'est le référendum d'initiative parlementaire. Il y a trois étapes. La première est franchie, feu vert. Plus de 185 parlementaires doivent signer. C'est fait pour Aéroports de Paris. Petit 2, il faut que le Conseil constitutionnel valide. Feu orange, on verra ce qu'il en sera. Et puis, il y a une troisième étape. Pour que le référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris ait vraiment lieu, il faut que 10% des électeurs le demandent. Autrement dit, 4 700 000 personnes. Cela relève quasiment du feu rouge, selon Jean-Philippe Derosier, qui est constitutionnaliste et professeur de droit public à l'Université de Lille.
Il y a 9 mois pour recueillir les soutiens à compter de l'ouverture de la période de recueil. L'ouverture est déclarée par le ministère de l'Intérieur et c'est le ministère de l'Intérieur qui organise ce recueil. Et c'est un seuil particulièrement élevé, parce que ça représente 10% du corps électoral, 4,7 millions de personnes. Mais si on se réfère à d'autres instants démocratiques, je pense par exemple à la primaire de la droite et du centre en 2016, on n'était pas loin de ce seuil-là. Alors vous me direz, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas la même chose, vous auriez tout à fait raison. Mais là, on est dans le cadre aussi de la nouveauté, on peut faire confiance aux politiques pour vendre cela comme un moment d'opposition démocratique au gouvernement et à la majorité. C'est une tâche qui va être ardue, mais je pense que le souffle de la nouveauté peut tout à fait permettre d'aboutir. Ce ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible.
Un propos recueilli par Yael Gauss. Ça n'est pas une surprise, le président du MEDEF plaide pour qu'on retarde l'âge légal de la retraite. Geoffroy Roux de Bézieux estime qu'il faut aller au-delà des 62 ans. Et puis une nouvelle ère à partir de cet après-midi pour Airbus, conseil d'administration et changement de patron. Guillaume Faury va remplacer Tom Enders. Amnesty International publie son rapport annuel sur la peine de mort dans le monde. Pour en parler, l'invité de ce journal est la porte-parole d'Amnesty sur le sujet. Bonjour Anne-Denis.
Bonjour.
690 exécutions dans le monde l'année dernière. Premier constat, le nombre est en baisse et en nette baisse.
Absolument, c'est vraiment remarquable puisque ça représente à peu près 30%, un peu plus de 30% de baisse par rapport à l'année précédente.
Et le nombre d'exécutions au plus bas depuis 10 ans.
Voilà.
Est-ce que cela signifie que de nouveaux États sont passés du côté des abolitionnistes ?
Alors, d'une part, il y a des nouveaux États qui sont passés, enfin, il y a au moins un État qui est passé du côté des abolitionnistes, le Burkina Faso, qui est devenu abolitionniste pour les crimes de droit commun. Et puis, il y a des États qui ont signé des moratoires, qui ont décrété des moratoires, comme la Gambie, en Afrique subsaharienne, et la Malaisie. Il y a aussi aux États-Unis l'État de Washington qui est devenu abolitionniste. Donc effectivement, il y a une espèce de tendance mondiale qui prouverait que le chemin est l'abolition.
Et que les arguments des abolitionnistes progressent.
Alors oui, les arguments des abolitionnistes progressent, c'est-à-dire que il y a par exemple en Iran, la chute des exécutions, du nombre d'exécutions est particulièrement remarquable en Iran, puisqu'il y a une diminution d'environ 50%. Alors pourquoi ? On peut se poser la question, parce que l'Iran, c'est quand même le premier pays exécuteur après la Chine. Et si on rapporte le nombre d'exécutions à la population, c'est même le premier exécuteur dans le monde. Et donc cette chute, elle provient de quoi ? Elle provient d'une modification de la législation sur les stupéfiants. Fin 2017, il y a eu une nouvelle loi qui augmentait les doses de drogue qui seraient saisies et qui pourraient déclencher une peine de mort. Et donc là, on voit vraiment que ça joue cette année dans les exécutions.
Alors, les pays où il y a le plus d'exécutions, Iran, Irak, Vietnam, Arabie, et puis vous parliez d'un autre pays qui est un véritable trou noir, c'est la Chine. On n'a pas de chiffres pour la Chine.
Non, alors on n'a pas de chiffres pour la Chine parce que c'est un secret d'État. Mmh. Et jusqu'en 2009, Amnesty International donnait des chiffres pour la Chine qui étaient naturellement très très faibles puisqu'on n'avait pas accès à des sources officielles. Et Amnesty s'est rendu compte que la Chine se servait des rapports d'Amnesty pour dire « ben voilà, voyez bien qu'on n'exécute pas, vous n'avez qu'à vous référer au rapport d'Amnesty ».
Alors que vous pensez que ça se passe par milliers,
le
nombre d'exécutions.
Alors on n'a pas de chiffres fiables, exacts, mais on sait qu'il y a plusieurs milliers d'exécutions chaque année en Chine. De même, plusieurs milliers de condamnations à mort chaque année en Chine.
Deux pays riches qui ont recours à la peine de mort, États-Unis, Japon. Aux États-Unis, on arrive globalement, grosso modo, à une situation où la moitié des États ont aboli la peine de mort ou imposé un moratoire, c'est-à-dire une pause, et l'autre moitié où on la pratique encore. Il y a un mouvement abolitionniste au Japon.
On ne parle pas de la peine de mort au Japon. La plupart des Japonais ne savent même pas comment ça se passe. Ils n'ont aucune idée de ce que peuvent être, par exemple, les conditions de détention dans les couloirs de la mort au Japon. C'est effroyable. C'est-à-dire que les gens sont surveillés 24 heures sur 24 par une caméra, la lumière est allumée, ils doivent rester assis ou accroupis sur leur couchette sans pouvoir bouger. Ils n'ont pas le droit de bouger. S'ils veulent bouger dans leur cellule, ils doivent demander la permission. Ils doivent regarder droit devant eux. Enfin, c'est quelque chose d'inimaginable. Et chaque jour peut être le dernier, c'est-à-dire qu'ils ne savent jamais quand ils vont être exécutés. Et cela peut durer des années.
Encore le cas d'un pays, l'Égypte, où le nombre de condamnations à mort augmente fortement.
Ah oui, alors là, on a eu beaucoup, beaucoup de condamnations à mort en Égypte. Alors ce qui est épouvantable, c'est que ce sont souvent à la suite de procès collectifs où aucune norme...
Ce sont des procès politiques, il y a des questions de droit particulières.
Alors c'est surtout suite aux manifestations qu'il y a eu.
Donc ça traduit vraiment un durcissement politique.
Des règlements de compte, voilà, les frères musulmans, enfin, etc.
Encore une question, plus de la moitié des États dans le monde ont aboli la peine de mort, 106, si on ajoute ceux qui n'y ont pas recours, même si elle est inscrite dans la loi, ça fait 142. Est-ce qu'il y a une logique par continent ? Est-ce qu'on aurait une Europe où la peine de mort n'existe quasiment plus et une Asie où on y aurait encore largement recours, par exemple ?
Alors, le continent américain, oui. Il n'y a que les États-Unis d'Amérique qui exécutent. Bon. En 2018, un autre État a condamné à mort, c'était le Guyana. Mais sinon, il n'y a rien depuis des années dans les Caraïbes, etc.
Et même en Amérique du Sud ?
En Amérique du Sud, la plupart sont abolitionnistes. Sur le continent européen, il n'y a que le Bélarus qui est encore la peine de mort. La Fédération de Russie est sous moratoire depuis des années. En Afrique, on a vu toujours des progrès en Afrique subsaharienne. En Asie, il y a un petit progrès, par exemple la Malaisie, qui a décrété aussi un moratoire.
Voilà pour cet entretien avec Anne Denis d'Amnesty International, enregistré en milieu de matinée. Il y a 20 000 personnes dans les couloirs de la mort à travers le monde. Aux États-Unis, le mouvement anti-vaccination a des conséquences. La rougeole est de retour. À New York en particulier, près de 300 nouveaux cas répertoriés récemment. Le maire Bill de Blasio ordonne une campagne de vaccination obligatoire dans plusieurs quartiers. La mesure vise en particulier la communauté juive orthodoxe de la ville. L'œil Glory.
des poursuites judiciaires et une amende de 1 000 $. Voilà ce qu'il en coûtera aux contrevenants. Vaccination obligatoire pour tout le monde dans les quartiers concernés. Pour endiguer l'épidémie, les écoles talmudiques désormais ne pourront plus accepter d'enfants non vaccinés. Certains parents ont exprimé leur colère à la sortie de la conférence de presse du maire de New York.
Si vous m'amenez des études, je changerai d'avis. Les vaccins sont formidables, mais il n'y a pas d'études. Alors si on me force à injecter quoi que ce soit dans le corps de mon enfant, comme mesure préventive, c'est totalement ridicule et ce n'est pas éthique.
Mais les anti-vaccins ne pourront plus invoquer l'exemption religieuse, une excuse jusqu'ici valable pour dissimuler chez certains de vraies convictions anti-vaccinales. C'est ce qu'affirme John, pharmacien à Williamsburg. Les fausses informations, dit-il, se sont faites une place dans la communauté.
Je crois que ça affecte les opinions et les décisions des gens sur la vaccination. C'est pareil avec la grippe. Beaucoup ne veulent pas être vaccinés parce qu'ils pensent que cela les rendra malades. La plupart des gens ici sont vaccinés. Alors je ne crois pas que tout cela soit lié à leur religion parce qu'ils croient tous à la même chose. À mon avis, c'est de la négligence ou des idées reçues autour de la vaccination.
Et à vrai dire, ni les textes religieux ni les autorités juives de la ville ne déconseillent la vaccination. New York, Loïc Loury, France Inter.
Un mot de la Ligue des champions de football, 21h ce soir, les deux derniers quarts de finale. Ajax, Juventus de Turin, Manchester United, Barcelone. Les sorties cinéma de la semaine avec aujourd'hui le retour de Tanguy et puis aussi le retour de la réalisatrice Anne Fontaine. Elle s'attaque après deux films très sombres au conte de Grimm, Blanche-Neige. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
C'est votre conseil cette semaine avec cette mise en garde. Ce n'est pas un film pour les enfants.
Mais non, c'est une Blanche-Neige un peu coquine, un film en tout cas qui comporte des scènes explicites, comme on dit. Anne Fontaine a choisi ici de transformer le conte en grand récit d'émancipation féminine, une comédie un peu fantastique avec beaucoup d'humour, des personnages qui rappellent bien sûr le conte, la jeune fille innocente, sa méchante belle-mère jalouse de sa beauté et les 7 nains, pas si petits d'ailleurs, qui vont tous tomber sous le charme de Blanche-Neige, ou plutôt de la jeune Claire, interprétée par Lou Delage, qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent dans ce genre de rôle et qui est sublime de sensualité. Le film lui doit beaucoup.
Un portrait d'une femme libre qui découvre ses désirs et va tout mettre en œuvre pour les assouvir.
Anne Fontaine, toujours fidèle à ses thèmes de prédilection, l'émancipation féminine, la transgression, la découverte de soi. La jeune Claire, au départ, est inconsciente de son pouvoir de séduction. Elle a reçu une éducation très stricte et vit complètement sous la coupe de sa belle-mère, Isabelle Huppert. Mais elle va se libérer au contact des habitants d'un village isolé du Vercors. Le déroulé de l'histoire est un peu académique, mais le casting fonctionne bien. On retrouve dans le film tous les symboles, l'image du conte original, les animaux, la maison au fond des bois, la pomme empoisonnée et les 7 messieurs.
Et où est le prince charmant ?
Il n'y en a pas, Blanche-Neige. La Blanche-Neige d'Anne Fontaine est une jeune femme de son époque qui a cessé de croire aux histoires de princesses, qui veut vivre libre, assumer ses désirs, parce que c'est un jeu, parce que c'est la vie. Les hommes dans le film sont eux plutôt passifs, un peu gauches et vont vivre avec elle des histoires à chaque fois très différentes. Vincent Macaigne, Benoît Poulvord, Damien Bonnard qui font preuve ici dans le sens de l'absurde et dans un second degré assez drôle. Sans doute que ça ne plaira pas à tout le monde, mais allez le voir.
Blanche comme neige, Anne Fontaine au cinéma ce mercredi. Le prince charmant, il arrive dans une seconde.
La météo avec Gauthier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
Sébastien Léas.
Après-midi gris et pluvieux au nord de la Loire et sur le nord-est avec des pluies plus marquées entre l'Ille-et-Vilaine et le Doubs. Sur le nord-Pas-de-Calais, le ciel s'éclaircit nettement, notamment sur les Flandres. Le soleil est aussi généreux sur le Roussillon, entre les plages landaises, la Vendée et le Poitou-Charentes. Partout ailleurs, ce sont les nuages qui l'emportent cet après-midi, parfois assez nettement, avec quelques averses qui peuvent se produire, notamment dans le sud-ouest, et quelques coups de tonnerre sur le massif central, les Pyrénées, le Jura et les Alpes du Nord. Les averses orageuses sont plus actives à l'est du Rhône et en Corse, en particulier sur le Var, où de la grêle est même possible cet après-midi. À noter le Mistral et la Tramontane qui sont sensibles. Les températures de cet après-midi baissent sur le nord-ouest, mais restent stationnaires ailleurs. Prévoyez 10 à 16 degrés sur la moitié nord et 15 à 20 degrés plus au sud.